Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 117e épisode de Torréfaction. Torréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis matin à 8h avec notre sélection de l'actu, une sélection de l'actu que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Oui, bonjour Fasquille.
Ça va bien?
Bon écoute, impeccable, on est à l'heure et tout va bien. Ta carte son nous a pas du tout fait tilter aussi.
Pas du tout.
Franchement, c'est une bonne journée pour faire un podcast.
Les aléas de la technique. On vous rappelle, tiens, en passant, l'existence du Patreon, tiens, parce qu'on le fait pas assez souvent, je trouve. Patreon.com/geekzonefr. Si vous voulez nous aider à financer les podcasts, eh bien, n'hésitez pas à passer pour laisser un petit peu de sous tous les mois. Nous, ça nous fait plaisir.
Et d'ailleurs, ça nous fait plus que plaisir. Mais surtout, je voulais remercier les gens qui passaient directement par PayPal aussi, parce que c'est vrai que on le fait pas non plus.
C'est vrai.
Il y a des gens qui payent directement via PayPal et qui nous font des petites donations comme ça.
Ça
marche aussi. Merci. Et il y a des gens qui ont fait sur l'année des one shot très gentils. Et c'est vrai qu'on prend pas assez le temps de vous remercier. Et c'est sale. Voilà, je me sens sale. il faut qu'on corrige ça. On est nul sur les rewards. C'est-à-dire que c'est pas qu'on aime pas l'argent, mais si on aimait vraiment l'argent, on serait meilleur sur les rewards.
C'est clair. Allez, on attaque notre sélection de la semaine avec le gaming et on va parler de Legends of Runeterra
avec Riot. Des gens qui aiment l'argent, tu vois. Eux, l'argent, ça leur plaît beaucoup. Et quand ils voient des types faire de la thune avec des trucs qu'ils font pas encore, ils font on n'a pas copié ce truc-là encore. Il est temps de le faire. Alors, Legends of Runeterra, ça a été un peu long à arriver. C'est une, évidemment, c'est leur jeu de cartes. Ils sont hyper late to the party, comme disent nos amis anglo-saxons. C'est-à-dire que depuis que Hearthstone a cartonné, en ayant évidemment tiré son inspiration d'une simplification de Magic, qui est le père, tu vois, Dieu, le fondateur. Forcément, tout le monde s'y est mis. Tous les univers ont leur jeu de cartes maintenant. The Witcher a son jeu de cartes. Voilà, tout le monde fait son truc avec les cartes à collectionner. Et Riot, ils étaient pas trop dans le trip au départ. Et ils s'y sont mis tardivement. Il y a eu une bêta fermée en fin 2019 que j'ai eu la chance d'essayer. Alors, bon, j'ai pas osé faire les air guillemets à côté du micro pour parler de chance, parce que il y avait quand même pas grand chose au départ, et ça reste un produit Riot, donc c'est extrêmement propre. Je pense qu'il y a de quoi débattre pendant très très longtemps sur la façon dont ils ont adapté le jeu de cartes classique. On a l'habitude de faire directement, de poser ses cartes, tu choisis, tu les mets, et les actions vont se déclencher, et puis ensuite ça va être à l'adversaire, etc. Eux, ils ont voulu faire un rythme de jeu un peu plus dynamique, donc tu as un système de contre. Pendant que la personne en face joue, tu as un système de contre en fonction des sorts. Si c'est une attaque, tu peux choisir de bloquer. En fait, ils ont été piochés dans différents jeux. Ils ont pioché dans Magic, ils ont pioché dans Hearthstone, etc. Et finalement, contrairement à ce qu'ils font d'habitude, je suis pas certain qu'ils aient simplifié, tu vois, par rapport à d'autres titres. Je trouve que Hearthstone reste finalement plus simple à appréhender. Alors,
c'est pas une volonté d'aller plutôt du côté de l'e-sport avec ce jeu-là aussi, en fait?
Si, très clairement, ils essayent, même sur ils avaient simplifié, enfin il y a 10 ans, League of Legends était bien plus simple qu'il ne l'est aujourd'hui, même si on reste très très loin d'un Dota 2 encore aujourd'hui, mais c'est effectivement, je sais pas forcément vers la simplification qu'ils ont été, en tout cas c'est pas l'impression que j'ai eu.
C'est une envie de dynamiser le rendu du jeu peut-être.
Voilà, c'est-à-dire que globalement t'es pas en train d'attendre pendant 25 ou 30 secondes, whatever, que le mec en face fasse son move, il va se passer plus de trucs pour toi tout le temps. Alors est-ce que ça plaira, je ne sais pas. Ils ont des buts assez noble dans l'histoire, c'est-à-dire de pouvoir faire en sorte que le jeu ne soit pas dépendant, ne soit pas pay to win tout bêtement, donc ne soit pas non plus dépendant de la thune que vous avez claqué pour avoir un deck qui tienne la route. J'ai envie de te dire que ça c'est un truc que j'ai lu un peu partout à chaque nouveau jeu de cartes. Quand tu fais ce type de jeu, c'est un peu compliqué, peut-être qu'ils vont y arriver, j'en sais rien. Donc en tout cas, la bêta ouverte, maintenant tout le monde peut y avoir accès, vous pouvez commencer, ça a ouvert hier si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, coup, vous pouvez foncer. Je vous ai linké la page officielle. Si vous n'avez pas enregistré, vous pouvez y aller. Vous verrez, il y a les prix pour acheter les packs de cartes, etc. Et puis, si vous êtes un fan de l'univers de Riot, forcément, vous allez plus accrocher. Hein. C'est un peu comme les gens qui jouent à Teamfight Tactics, TFT, à la place de Dota Underlords. Si vous venez de l'univers de League of Legends, ça sera plus facile pour rentrer dans le délire. Je suis un peu dubitatif sur vraiment le modèle de jeu. Après, la qualité de cette bêta est indéniable. Enfin, l'interface est déjà super propre, même si c'est pour trouver. Alors, j'ai pas regardé s'ils avaient changé pour l'open bêta, mais pour la bêta fermée, le menu pour quitter le jeu était surplanqué. Je trouvais ça complètement débile. C'était vraiment pas logique.
Non, tu continues à jouer.
C'est ça. C'était un peu ça. Le truc, fallait aller dans les settings et tout. Et là, genre, mais pourquoi il est là, lui? Pourquoi c'est pas un gros bouton sur le truc pour me barrer, quoi? Point. Donc voilà. Je vous laisse regarder tout ça. Et puis, je pense qu'on sera amené à en reparler. Hein. C'est juste le début de l'open bêta. J'y ai pas passé beaucoup de temps encore. Mais je vais suivre ça de près parce que je vous rappelle que Riot, après avoir passé 10 ans à faire un seul jeu, a annoncé une dizaine de projets. Donc, on va être amené à parler d'eux régulièrement dans l'année qui vient.
Allez, on passe du côté de nos amis de Valve. Et on n'en avait pas encore parlé dans Torréfaction. Oui, les autres. Half-Life Alyx. Alors, moi, c'est une annonce qui m'avait laissé un peu froid et voire un petit peu énervé, en fait. Ça faisait longtemps qu'on attendait une suite à Half-Life. Alors déjà, on n'a pas eu Half-Life 3, donc on est tous très très tristes. Mais en plus, là, donc on avait appris que c'était un jeu exclusivement en réalité virtuelle, donc avec un casque à 1000 balles. Donc ce qui fait plaisir, évidemment.
Enfin, casque à 1000 balles quand on parle du casque chez eux, qui évidemment, ils voudraient bien que vous achetiez. Mais d'accord.
Bah, c'est un peu ce qui m'embête, en fait. Alors on va en parler très vite, hein, parce que c'est vrai qu'on, comme on n'a pas parlé d'Alyx encore, autant le faire. Moi, c'est un peu ce qui m'embête avec ce projet, c'est que on sait qu'il y a une énorme attente de la communauté Half-Life sur un nouveau titre de la franchise. Il y a des projets comme Borealis, par exemple, qui sont des projets fan-made, en fait, de ce fameux épisode 3 que tout le monde attend et qui ne viendra probablement jamais. Et puis là, ils ont annoncé donc un jeu exclusivement VR, quand on sait que la VR a quand même un petit peu de mal à trouver son public, hein, à part quelques férus, on va dire. C'est vrai que c'est pas vraiment un truc qui cartonne. On en connaît, mais moi, j'ai du mal.
Pourtant, on est dans les early adopters. Hein, mais...
c'est marrant, j'en parlais avec Gotos tout à l'heure, justement, et je lui disais, pour moi, ça reste quelque chose de très anecdotique dans l'histoire du jeu vidéo, et ça restera quelque chose de très anecdotique dans l'histoire du jeu vidéo. C'est cool s'il y a des gens qui aiment, c'est cool si ça permet de développer de nouveaux types de jeux, mais d'aller sortir un nouveau Half-Life uniquement en VR, si c'est pas pour essayer de vendre des casques, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, moi, ça me laisse un petit peu grognon, on va dire.
Aigri,
tu peux le dire. Donc bref, on vous parlait d'Alyx parce qu'en fait, les développeurs, en tout cas, une partie de la team de développement du jeu, ils ont fait un AMA sur Reddit, donc un Ask Me Anything, c'était il y a 2 jours, et on n'a pas appris énormément de choses, mais il y a quand même de quoi rassurer les fans, on va dire, d'une certaine manière. Donc ils nous ont confirmé que c'était un jeu qui était effectivement assez fort enclin à faire peur. Alors moi, c'est pas un souvenir que j'ai d'Half-Life, mais a priori eux, ils ont décidé que c'était éléments clés de la franchise. Donc a priori, le jeu fera peur. Donc il y aura des petits les headcrabs, les crabes, les crabes qui rampent, qui te sautent sur la tête.
À l'alien, c'est jumpscare.
Voilà, donc ça m'a pas particulièrement rassuré. Alors ils ont aussi annoncé que le jeu avait été développé avec l'accessibilité en point de mire, ce qui me fait beaucoup rire quand tu parles d'un jeu qui est réservé à la VR, mais bon, bref. Ouais, en gros, ouais. ça sera accessible à tout le monde. Tu pourras jouer de la main gauche si ça t'intéresse. Donc super.
Faut quand même des mains et des yeux. Hein. D'accord, c'est des jeux vidéo. Enfin, tu vois. Enfin, l'accessibilité dans ce genre de truc, ça m'a. Bon, bref. Ouais, on va pas rentrer dans le détail, parce qu'il y a de quoi faire un podcast complet.
C'est clair. Retour donc d'éléments clés de la franchise comme les Combine. Donc c'est ces fameux soldats qui étaient présents dans les précédents épisodes, des Barnacles. Tu sais, c'est ces trucs qui sont accrochés au plafond et qui slurpe avec leur langue. Mais alors, a priori, donc, ils ont annoncé qu'il y aurait des nouvelles mécaniques, rapport à ces barnacles, notamment, qui seront propres à la réalité virtuelle, mais avec zéro info derrière. Donc, pour le moment, est-ce que c'est du bullshit marketing ou est-ce que c'est vrai? On le verra quand le jeu sortira. On a appris aussi qu'il y aurait un train, parce qu'apparemment, c'est un élément essentiel de la franchise, Dixit les développeurs.
Okay.
Moi, je me souviens que c'était l'intro du premier, mais sinon, de ça, j'ai pas souvenir que le train était un élément essentiel.
Qui fait jeu chez Valve?
On sait pas. Bref, le soundtrack sera signé Mike Moraski, qui avait déjà signé celui de Portal 2 et de Team Fortress 2. Ça fera plaisir à nos amis des démons du midi. On a appris aussi que, donc, que les armes se manieraient avec une seule main et qu'on aurait donc besoin de l'autre main pour gérer notamment les gants de gravité, donc qui vont probablement a priori remplacer le, je sais plus comment s'appelait cette arme qui permettait donc de déplacer des objets à distance, gérer le mouvement, gérer les interactions avec le monde, gérer la lampe de poche, etc. Et qu'il y aura un inventaire par main. On aura la main gauche pour l'inventaire des munitions et la main droite pour l'inventaire des armes. C'est à peu près tout ce qu'on sait, donc c'était un mais fantastiquement passionnant. Bref, enfin si ça se trouve j'ai peut-être loupé des trucs dans le tas, mais je vous invite donc à aller consulter le AMA que je linke donc dans le billet qui accompagne ce podcast si vous êtes intéressé et en attente donc de ce nouvel épisode de la franchise Half-Life baptisé Alyx.
Ah là là.
Ce qui n'est pas mon cas, donc, mais je pense que ça c'était relativement clair.
Bah ouais, on verra. Hein. Déjà oui. Le truc c'est que est-ce que le jeu est spécifique à leur casque à eux sur les trucs, parce que comme les mouvements des mains et ces trucs, c'est la techno de chez eux.
Écoute, j'ai pas l'info, donc s'ils veulent vraiment pousser le vice, je pense que c'est ce qu'ils feront, mais
ils veulent en vendre
quand
même.
Ça paraît un peu casse-gueule, hein, mais bon.
Écoutez, hein, venez nous insulter sur le forum pour nous donner plus d'informations. Cela dit, je compte sur nos fans de la VR qui vont rebondir sans aucun problème sur ton anecdotique du jeu vidéo. Ils seront là, hein, je les connais. Et je sais que c'est génial de jouer à Elite avec un casque de VR, mais même pour moi, ça fonctionne pas parce que j'ai besoin de mes sites web et puis j'aime pas ça tout bêtement. Enfin, je suis navré. Voilà, bon, bref. Il y aura un podcast spécial à faire là-dessus.
C'est clair. Allez, on reste dans le gaming, on parle MMO cette fois-ci avec Temtem.
Ouais, c'est trop mignon. Temtem. Alors c'est un truc, on n'y a pas joué du tout. Hein. C'est juste le concept qui me fait vraiment mourir de rire. Vous verrez ça dans la news. Tout le monde est en train d'en parler cette semaine puisque Temtem, c'est un MMO qui vient de sortir et qui répond intégralement les concepts de Pokémon et je trouve ça génial parce que
c'est fait par Riot ou quoi.
C'est ça, tu te dis c'est pas les mêmes que d'habitude qu'on copie, mais ils ont pas le temps de tout copier non plus, tu vois. Faut être gentil avec eux. Donc le Temtem, c'est un truc qui est hyper drôle parce que tu te dis c'est un jeu qui aurait dû sortir il y a 1000 ans par la Pokémon Company, parce que c'est le MMO que tout le monde attend depuis super longtemps, et finalement pas du tout, c'est un studio espagnol qui nous a sorti ça. Alors les mecs, j'adore le nom, c'est Crema Game, Crema Games même, et c'est mais vraiment la copie. Les mecs se cachent absolument jamais, à aucun moment. Hein. C'est le rip-off comme on dit en anglais. Les mecs, ils ont pris. Alors on a des aventuriers qui se baladent dans la forêt, qui vont capturer des animaux et après ils vont se battre entre eux. Voilà, c'est un concept
c'est du jamais vu.
Que personne a vu en 25 ans. Trop bien. Alors évidemment, vu que la franchise rapporte des montagnes de billets, on se dit go. Moi, il y a un truc qui me fait toujours marrer dans ce genre de cas, c'est à quel moment les avocats vont sortir du bois. Parce que là, franchement, on est dans la copie façon Xiaomi avec les designs Apple. Hein.
C'est abusé, comme on dit.
C'est voilà, mais eux, ils sont pas planqués en Chine. Donc, tu vois, je sais pas comment ça peut évoluer. En tout cas, les reviews sont très bonnes. Il faut aimer le genre, évidemment. Ça, mais tout le monde adore le concept en se disant, voilà, ils ont pigé ce qui faisait vraiment le sel, la saveur des Pokémon et pourquoi c'était rigolo. Et les mecs, ils ont été dans le too much et du coup, c'est rigolo. Et donc, tout le monde s'éclate avec ce truc. D'ailleurs, à tel point que les serveurs sont en train de décéder puisque, évidemment, c'est un carton à la sortie. C'est les Pokémon, les gars. Ça s'appelle Temtem, mais c'est les Pokémon. Donc, forcément, quand c'est bien fait, ça fonctionne. Et étant donné que pour le moment, j'ai pas vraiment vu de review négative, il fallait un petit peu s'y attendre. Donc voilà, si vous voulez tester la chose ou si vous avez des gnomes autour de vous qui sont potentiellement intéressés par les MMO, mais vous voulez pas les mettre directement au crack World of Warcraft et genre de choses, vous pouvez tester ça. Enfin, si je dis ça, mais les Pokémon, c'est pire que le crack. Hein.
C'est ce que j'allais dire. Ouais.
Donc voilà, maintenant vous savez que ça existe. Et puis j'attends vos retours avec impatience parce que je ne vous cacherai pas qu'il n'y aura pas de Temtem News dans Torréfaction. Hein. je ne l'installerai jamais. Je n'y jouerai pas. Je vous préviens. Ça, c'est fait. Moi, j'ai fait mon travail. Ça s'arrête ici maintenant. Si vous voulez la suite, c'est sur les forums. J'attends vos retours avec grand plaisir.
Allez, on passe du côté des apps et je voulais vous parler très rapidement de deux petites apps dont j'ai parlé sur Geekzone cette semaine. Tout d'abord, Homebits. Est-ce que tu te souviens de Homewriter ou pas?
Ah oui, c'était à l'époque. C'est vieux.
C'est vieux. Homewriter, donc c'était un soft de de traitement de texte en fait immersif. Donc l'idée, c'était vraiment d'occuper tout l'espace de l'écran, de te balancer une petite musique un peu chill, d'avoir des petits sons quand tu tapes sur tes touches de clavier. L'idée, c'est vraiment de pouvoir t'immerger dans ta bulle quand tu veux écrire. Et c'est un des gestionnaires de documents qui permet de faire ça, comme WriteMonkey, comme FocusWriter.
C'était un des premiers à se battre contre, enfin, être non intrusif. Ah non, pas contre les intrusions, en fait. Vraiment, tu fais que ça, tu écris ton truc et puis tu fais rien d'autre.
Alors moi, au final, je l'avais préféré WriteMonkey pour plein de raisons, et notamment le fait que finalement HomeWriter est très très restreint au niveau des options, donc
Mac aussi.
Et très très Mac, mais surtout il y a quelques trucs qui me dérangent, comme le fait que tu puisses pas définir des paramètres par défaut, c'est-à-dire que t'as une fenêtre qui est toute petite au milieu de l'écran et tu peux l'agrandir si tu veux, mais quand tu relances un nouveau document, elle est de nouveau toute petite, donc tu dois de nouveau la réagrandir. Enfin, c'est des petits détails, mais c'est des trucs qui m'ont fait passer à autre chose.
Il y avait toujours eu un bon concept, mais c'était toujours développé à la va-vite et ça a jamais été très intéressant en termes techniques, on va dire.
Alors ils ont sorti donc une nouvelle app qui s'appelle HomeBits, qui est donc une déclinaison version prise de notes de HomeWriter. L'idée est pas conne en fait, c'est en gros t'as une idée, tu veux vite la noter quelque part, tu lances cette app en fait, et c'est une petite app très légère qui se lance en mode aussi immersif, donc qui va occuper tout l'écran et qui va te permettre donc de prendre tes notes et de la sauvegarder directement sans avoir à t'occuper de choisir un nom de fichier, de où tu vas la mettre, etc. Et en fait il stocke toutes tes notes dans le programme principal, et tu peux choisir après de les exporter soit une par une, soit toutes en groupe au format RTF. Donc voilà, c'est un petit soft de prise de notes un peu différent des autres, donc je voulais en parler. C'est clairement pas un Notion ou ce genre de soft beaucoup plus avancé qui permet vraiment d'avoir un workflow complet, mais pour les gens qui de temps en temps veulent prendre des notes et qui veulent pas lancer un Sublime Text ou un Notepad par exemple, voilà, c'est une petite variante, ça coûte pas cher, hein, c'est 1€. C'est du name your price avec 1€ minimum, donc ça vaut vraiment la peine de tester, d'autant que c'est assez joli parce que finalement, comme tu le disais, c'est un soft qui était à la base vraiment développé pour le Mac. On sent qu'il y a vraiment il y a un vrai travail design, au niveau du design, quoi, ce qui est assez rare sur les soft Windows. Donc je voulais en parler très vite. Je vous ai fait une petite news cette semaine sur Geekzone si vous voulez plus d'infos et si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Et puis je voulais vous parler aussi très vite d'une autre app qui s'appelle Ferdy, qui est un fork en fait de Franz. Alors Franz, on en avait déjà parlé sur Geekzone. C'est un soft qui permet donc de centraliser tous les services de messagerie, email, etc. dans une seule et même app. Alors ça tourne avec ce framework qu'on n'aime pas et dont j'oublie toujours le nom.
Electron.
Voilà, Electron. Mais bon, il y a des gens qui préfèrent avoir les apps séparées, ce qui est mon cas. Toi aussi, d'ailleurs, je crois que t'es revenu à ça. Hein.
C'est surtout que le problème, c'est que Franz s'est fait tous ces softs ont le même problème, c'est que tu te retrouves avec les versions web en fait de ces apps à l'intérieur d'une autre app qui fait pas forcément mieux le boulot. Donc c'est un peu compliqué, et la mode actuellement elle est plutôt, et je dévie de ta news, je suis désolé, mais la mode actuellement c'est plutôt les apps qui te permettent en fait de créer une application à partir du site web de manière très légère pour éviter le client complet qui parfois est développé avec les fesses, coucou Slack. du coup sur Mac on a pas mal de trucs qui servent uniquement à ça. Il y a Fluid, il y en a plein, il y a Flotato dont j'ai parlé sur Geekzone, etc. Mais effectivement les softs qui regroupent tout, il y en a de plus en plus, il y en a même des payants très chers, et pour moi il n'y en a aucun qui fait le boulot vraiment correctement, puisque tu es obligé de te taper les versions web qui sont plus limitées.
Alors la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est parce qu'en fait Ferdy est un fork gratuit et communautaire. Donc en gros les mecs ont pris Franz qui est devenu payant et qui n'est pas donné, parce qu'en fait la version gratuite elle est limitée à 3 services, donc tu as vite fait le tour, et surtout si ton but c'est de centraliser tous tes services de messagerie en un avec 3 services, tu ne vas pas aller très loin.
Trop merci.
Donc Ferdy lui fait sauter cette limite, et en gros ils ont viré plein de fonctionnalités qu'ils jugeaient pas utiles dans Franz pour alléger un peu le soft qui était quand même assez gourmand, et ils ont rajouté des nouvelles fonctionnalités qu'ils jugeaient manquantes. Donc je vous invite là aussi à aller lire le billet que j'ai fait cette semaine, il y a un lien vers le GitHub qui explique tout ce qu'il y a de nouveau et tout ce qui a sauté. Le truc à retenir, c'est qu'en fait c'est un équivalent de la version premium de Franz mais en version gratuite, donc t'as pas une limite au niveau du nombre de services que tu peux rajouter, mais sinon c'est exactement le même soft. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous étiez un petit peu déçu par les dernières versions de Franz qui est de plus en plus gourmand, allez jeter un petit coup d'œil à Ferdy. C'est dispo pour Windows, macOS et Linux, c'est gratuit et ça se récupère donc sur le lien que je linkerai sur le billet qui accompagne ce podcast. On va parler culture avec plein. Une news qui va faire avec une news qui va faire plaisir aux fans de Miyazaki, mon cher Caf.
Ah là là, Netflix vient de récupérer la licence pour exploiter les 21 films du studio Ghibli, donc ils vont balancer ça en première salve, mais à partir du 1er février vous allez pouvoir vous régaler avec des trucs
que vous aviez peut-être pas acheté, vous aviez peut-être oublié, etc., etc.
C'est un joli coup quand même. Hein.
C'est alors je veux même pas savoir quelle est la taille du chèque qu'ils ont sorti.
Ils ont besoin en même temps là.
Voilà. Mais alors le truc c'est que je sais pas du tout avec Netflix, c'est ça qui est chiant, c'est que du coup combien de temps ils vont les garder, etc., etc. Bon, tu vois, il y a toujours des trucs parce que ça on t'annonce que ça arrive, mais on te dit jamais quand ça repart.
C'est ça.
Là, je vous confirme que c'est des trucs à mon avis, ils ont pas acheté les droits forever. Hein, parce que bon, ça coûterait un petit peu d'argent, mais c'est un excellent coup puisque ça va leur permettre d'avoir ça au moment où Disney Plus va arriver,
clairement,
etc. Donc les mecs sont assez malins. Je vous ai linké une news de des poteaux de Numérama où il y a tout le calendrier, mais ils ont commencé avec le meilleur. Puisque dans la première salve, nous avons Mon Voisin Totoro, et voilà, tout est fait, Totoro forever. Il y a Porco Rosso aussi, qui est fabuleux, qui date de 92, comme le temps passe, je l'ai vu au Cinoche, ça ne nous rajeunit pas. voilà, exactement, et en fait, ils font un lancement à chaque fois en début de mois, donc là, au 1er février, on aura une salve, ensuite c'est 1er mars, et ça se terminera au 1er avril. Donc, vous avez de quoi vous occuper, en même temps, vu le nombre de films à chaque fois, je ne sais pas comment s'organisent vos semaines. Mais bon, je suis pas même sûr, tu vois, même avec un mois d'écart, je suis pas sûr d'avoir le temps de tout me refaire, surtout quand tu vois mon backlog. Mais en tout cas, c'est un excellent coup et je pense que là, Netflix met des gros points chez les fans. Ça, j'attends de voir comment vont répondre les autres, mais moi, j'aime bien cette petite concurrence saine, tu vois, en ce moment.
Ouais, et bien, tu te plaignais de pas avoir beaucoup de temps, ça va pas s'arranger puisque ça y est, on a une date officielle pour l'arrivée de Disney Plus en France, ce sera le 24 mars. C'était prévu initialement pour le 31, puis ils ont décidé d'avancer un petit peu ça d'une semaine. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que c'est en France. En Belgique, en revanche, on va devoir patienter jusqu'à l'été 2020.
D'accord.
Ce qui, très honnêtement, me fait un petit peu chier. Et d'autant plus qu'il y a une réglementation européenne, normalement, qui interdit ce genre de choses. Normalement,
d'accord,
si t'as un service de streaming disponible dans un pays européen, il doit être accessible depuis n'importe quel pays européen, ce qui n'est donc évidemment pas le cas de Disney+. Donc c'est un petit peu problématique, on sait pas trop comment ça va se passer au niveau de la Commission européenne, mais je pense qu'ils s'en battent un peu les steaks, comme on dit.
C'est ça.
Donc voilà, je voulais juste vous annoncer ça, puisque Disney+, on en a déjà parlé, on va pas revenir dessus, hein, avec des exclus comme The Mandalorian et puis toutes les séries Marvel Studios. Donc
c'est
le 24 mars en France, ça sera 6,99€ par mois ou 69,99€ par an. Et on vous rappelle aussi qu'il y a une offre Canal+, groupée, donc qui vous permet d'avoir Canal+, et Disney+, mais on n'a pas d'infos sur le tarif encore de ce côté-là, donc j'imagine qu'on en apprendra un peu plus très bientôt. Et puis on reste dans la culture, on va parler d'une nouvelle série, c'est quoi, c'est la 512e série Star Trek.
J'en sais rien, je ne vais pas savoir. Il y a des pages Wikipédia que je refuse d'ouvrir, et la page de Star Trek en fait partie. Non, c'est en plus, ça me fait marrer, puisque là on vient de faire tous les services, donc là on va parler de Prime Video cette fois.
Il y en aura pour tout le monde.
Il y en aura pour tout le monde, les mecs. Donc il y a une nouvelle série Star Trek qui arrive, on en a pas parlé dans Torréfaction, mais on en a parlé sur le forum, c'est Star Trek Picard. Et oui, notre ami Picard est de retour. Bon, il a pas rajeuni, mais il a toujours autant la classe. Et
ce ne sera pas donc une série Star Trek où ils font de la livraison de surgelés.
Non. Est-ce qu'on valide cette vanne? Je ne sais pas.
On verra si on la garde au montage ou pas.
C'est toi qui fais le montage, donc c'est toi qui assume tes
conneries. Moi, je l'assume, elle me fait rire.
Moi, elle est parfaite, on la garde. Donc, hein. Mais donc, effectivement, cette série Picard qui sort du congélateur, notre ami l'acteur, celle-là, je suis pas sûr de l'assumer, mais c'est pas grave. Donc là, ça commence aujourd'hui, comme c'est bien fait quand même. Hein. On est dans le timing, on dirait qu'on fait un podcast d'actualité, c'est incroyable.
Incroyable.
Et ça arrive donc sur Amazon Prime. Le truc qui est à retenir de cette série Star Trek, c'est que si vous êtes fan des séries de SF très pampan, boum boum, calmez-vous tout de suite. Il y en a, il y a un peu d'action, mais apparemment, on est vraiment dans la série qui a des vrais textes avec un vrai propos.
Plus du côté Expense, alors, du coup.
Oui, voire même encore un peu plus lent, puisque là, on est vraiment dans une série qui explore aussi des façons d'envisager la société autrement.
Philosophique.
Puisque, je te rappelle que l'univers de Star Trek est très différent de plein d'autres univers, dans le sens où on a réglé tous les problèmes technologiques, entre guillemets, l'argent n'existe plus, il y a plein de choses qui sont extrêmement différentes dans le monde de Star Trek, qu'on oublie, parce qu'on est souvent dans le vaisseau, et puis on va faire pom-pom-boum-boum avec des aliens, et on... Y a,
pas le, enfin le fan de base est au courant de tout ça, mais le téléspectateur occasionnel oublie ce genre de truc qui est en fait hyper important dans l'univers de Star Trek. Et c'est une série humaniste, nous dit Numérama, qui apparemment va traiter de ce genre de choses et qui du coup bah, prend un angle assez différent. J'ai hâte de regarder ça. Bon, déjà parce que je suis un fan de notre ami Jean-Luc Picard. Je trouve que le personnage est hyper bien écrit et évidemment il est ultra bien joué comme d'habitude par l'acteur dont tu vas me révéler le nom.
J'étais en train de me dire, je me souviens pas de son nom, j'espère qu'il l'a pas oublié.
Et c'est génial parce qu'en même temps j'étais en train de galérer et on va garder ça, tu vois, on va pas le monter. J'étais en train de galérer pour retrouver le nom du mec en même
Patrick
temps.
Patrick Stewart.
Voilà, et ça c'est génial parce que tu me vois pas en train de scroller, c'est ça qui est beau avec le podcast. Vous me voyez pas en train de scroller frénétiquement en train de me dire, j'ai pas pu oublier le nom de ce mec.
Je crois qu'on
possible.
Est prêt pour le direct là.
Ah ouais, nous on peut, le direct c'est notre métier, hein, tu sais. Alors, maintenant il y a quoi? Il y a 3 coupures maximum par podcast. Donc bref, il est toujours aussi incroyable. Il y a le trailer dans la news de Numérama que je link avec le podcast. Et je suis, moi je suis prêt, je suis ready, je suis presque à jour dans les séries que j'avais décidé vraiment de regarder. J'en ai que quelques-unes, tu vois. Miss Maisel par exemple m'attend toujours et je m'en veux. Et, tu m'as remotivé pour mater Mr. Robot et pareil, je suis largement pas dans les temps. Mais voilà, celle-là, je crois que je vais m'y mettre dès que ça sort, malgré l'interface toujours extraordinaire, toujours au top de nos amis de chez Prime Video. Sortez-vous les doigts, s'il vous plaît. Merci.
Et je t'en rajoute une sur la pile, puisqu'on a appris la date de sortie de la saison 2 d'Altered Carbon. On en avait parlé.
Ça, c'est oui.
Un bon moment dans le numéro 38 de Torréfaction, donc ça date un petit peu.
Voilà,
donc ça y est, Netflix a annoncé que ça sortait le 27 février. Alors a priori, ce sera une adaptation assez libre du deuxième bouquin qui s'intitule Broken Angels. Alors je dis assez libre parce que si j'en crois, moi j'ai pas lu les bouquins, hein, mais si j'en crois ce que j'ai lu, a priori, donc la trame et puis tout ce qui se passe dans le bouquin, ça aurait coûté un petit peu cher à adapter en série télé. Donc ils se sont dit, on va adapter. Hein. Donc c'est toujours la même team à l'écriture et à la production, c'est toujours la même showrunneuse, donc c'est l'état Calogridis. Et voilà, vu le principe de la série que vous connaissez si vous avez vu la saison 1, hein, donc c'est des gens qui changent en fait de corps, hein, donc ce qu'ils appellent les sleeves, donc ils changent de peau en fait. Donc il y a une bonne partie du cast qui va changer, dont le héros, qui était incarné dans la première saison par Joel Kinnaman et qui sera incarné dans la saison 2 par Anthony Mackie, notre ami le Falcon du Marvel Cinematic Universe.
Hein. Et c'était super bien amené d'ailleurs dans le cliffhanger de la fin de la première saison.
Donc il reprend le rôle de Takeshi Kovacs. Hein. Il y a des nouveaux arrivants, je vais juste vous citer la présence de Simone Missick pour les gens qui ont suivi donc les séries Netflix Marvel, puisque c'était elle qui jouait Misty Knight dans Luke Cage. La série sera un peu plus courte, il y aura que 8 épisodes contre 10 pour la saison 1. On n'a pas de nouvelles images pour le moment, il n'y avait pas de nouvelles images dans l'espèce de teaser qu'ils ont balancé. Il y avait déjà eu un trailer, je crois, au début du mois de janvier, donc j'imagine qu'il y en aura encore un d'ici la sortie, donc le 27 février.
Le concept est mortel, hein. Vraiment, si vous n'avez pas maté la saison 1, foncez, c'est un des meilleurs trucs de SF qui est disponible sur Netflix. À mon humble avis.
Et alors, rappel en vitesse, puisqu'on parle d'Altered Carbon, puisque c'est apparemment un truc que Netflix fait de plus en plus, ils vont le faire avec The Witcher, ils vont le faire aussi avec Altered Carbon, c'est une adaptation en animé.
Nice.
C'est une adaptation qui avait été annoncée il y a un bon moment déjà, en novembre 2018, et qui devrait sortir donc finalement cette année. Donc voilà, et The Witcher aussi va recevoir le traitement animé, mais là on n'a pas plus d'infos, on vous en reparlera bien évidemment quand on en saura plus, et on va terminer cette section culture plutôt conséquente.
La balèze.
Parce que, voilà, avec l'annonce, je voulais en parler parce que ça parlera pas à tout le monde, mais moi
parce
ça m'a fait marrer.
Parce que c'est ton fond de commerce.
Exactement. Donc on vous avait parlé il y a quelques épisodes, il y a quelques mois de l'arrivée donc de nouvelles séries animées Marvel sur Hulu, donc qui sont regroupées.
Ah, on en avait pas parlé de lui encore.
C'est vrai, on aura fait tous les services de streaming aujourd'hui. Il manque plus qu'Apple Plus, mais pour le moment on a fait le tour de ce qui était intéressant. Donc voilà. Une série de plusieurs adaptations donc animées regroupées sous la bannière The Offenders, avec notamment un Howard the Duck qui sera showrunné par Kevin Smith. Il y aura aussi Hitmonkey, Tigra et Dazzler, et donc Modok. Modok qui est un personnage relativement improbable des comics, hein, une espèce de grosse tête qui flotte. On savait déjà que c'était Patton Oswalt qui allait s'occuper donc de gérer la série. C'est lui qui fera la voix aussi de Modok, et donc ils ont annoncé la suite du casting. Et elle est plutôt sympa pour les gens qui... Ça y est, c'est fait. C'est plutôt sympa. Non, c'est plutôt cool.
C'est plutôt cool. Oh là là, tu connais pas tes propres trucs. truc.
Je fais une variante.
Il faudrait que tu la replaces maintenant, t'es obligé. Allez.
Donc, le reste du cast est plutôt cool.
Ah, voilà.
Parce qu'il y a quand même pas mal de gens que moi j'aime beaucoup. Alors, il y a Aimé Garcia qu'on avait pu voir dans Lucifer, qui incarnera donc Jodie, l'ex-femme de MODOK. Ben Schwartz, hein, qui est un mec qu'on avait pu découvrir dans Parks and Recreation, hein, qui lui incarnera le fils, Lou. Il y aura aussi Melissa Fumero, pour ceux qui suivent Brooklyn 99. Brooklyn Nine-Nine, je sais plus comment
Brooklyn
on va
Nine-Nine,
dire Brooklyn Nine-Nine, qui incarnera donc Melissa, la fille de MODOK. Et puis Beck Bennett, c'est peut-être un mec un peu moins connu, mais ceux qui suivent le SNL doivent se souvenir de lui. C'est donc un membre du cast du Saturday Night Live qui avait notamment dans ses persos un perso qui s'appelait Office Baby, qui était une espèce de CEO, mais version bébé, donc avec des mimiques de bébé, qui est absolument fantastique. Si vous l'avez jamais vu, cherchez ça sur YouTube, Beck Bennett, Office Baby SNL, vous allez voir, c'est à se pisser dessus. Tellement c'est drôle. Et donc voilà, donc c'est apparemment une histoire quand même un petit peu familiale, hein, autour de MODOK.
J'apprends que MODOK a une famille, moi. La tête flottante, quoi. Je comprends pas.
Voilà, mais c'est voilà, comme c'est showrunné par Patton Oswalt, moi je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. D'autant plus que bon, voilà, MODOK c'est plutôt un bad guy générique, on va dire, dans les comics, bad guy de Captain America notamment, chef de AIM, donc c'est quoi, c'est Advance, je sais plus quoi.
Ne pose pas des questions comme ça.
Donc bref, voilà, c'est une adaptation là aussi visiblement assez libre des comics, mais moi ça m'a rendu quand même assez curieux. Je vous linkerai un papier de Slash Film qui fait le récap de tout le cast, parce qu'il y en a encore d'autres que j'ai pas cités. Et donc la sortie de la série est prévue sur Hulu cette année, sans plus de précision. Dès qu'on aura une date exacte, on vous fera signe, comme ça vous pourrez contacter votre oncle des États-Unis pour qu'il vous envoie les VHS.
Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire, hein, parce que là franchement Bob VHS, il va falloir que tu travailles.
Et bah, tu rebinais, ouais.
Bah non, parce que Hulu on l'a pas de toute façon. Alors on peut l'avoir sur OCS, mais ça fait un service de plus, donc hein, en tout cas en France. Et là, si je fais la facture pour pouvoir regarder tous ces trucs là. Comment dirais-je, j'ai vu plein de papiers qui expliquaient que la multiplication des services de streaming était en train de redonner un coup de boost à Adobe, parce que ça refaisait exploser les torrents. Je ne suis pas surpris.
Alors c'est marrant, parce que c'était exactement ma réflexion aussi, et puis j'en ai parlé avec mon ami Brice Blevenek, avec lequel je fais un autre podcast, et qui me disait oui, mais en fait si tu réfléchis bien, à l'époque où on a eu les premiers décodeurs Canal+, on payait plus ou moins la même chose que ce qu'on paye aujourd'hui pour avoir tous ces services, et on avait finalement que 3 chaînes. Donc alors je sais qu'aujourd'hui on a l'habitude de payer 10 balles pour Netflix et qu'on veut pas payer plus, mais bon, au final quand t'es vraiment un gros consommateur de films et de séries télé, ça va encore.
Ouais, mais
si
y a jamais
sortir
que ça.
50 balles tout, oui c'est vrai,
parce que la problématique c'est qu'à l'époque on avait pas tous les services. On est en train de dévier complètement, mais à l'époque il y avait pas autant de trucs. Là quand je vois qu'il y a des gens qui lâchent bah tu vois, déjà sur notre Patreon, merci à eux, il y a des gens qui sont abonnés à des streamers sur Twitch maintenant.
Oui,
tu peux t'abonner à des chaînes YouTube, parce que t'as les chaînes YouTube payantes entre guillemets, plus tes streaming audio, etc. Donc voilà, moi j'ai une petite appli qui fait peur. J'en avais parlé il y a longtemps sur Geekzone. C'est mon appli du cauchemar. Elle s'appelle Bobby, c'est mon ami. L'icône c'est un petit écureuil, et en fait dedans tu rentres tous les trucs que tu payes en fait tout le temps, tu vois. Et ça te dit annuellement ça te revient à temps, mais il faut pas regarder cette case.
Je vais pas installer Stab en tout cas.
Voilà, c'est très elle est que sur iOS, je crois, pour l'instant. Mais là, ils ont sorti une nouvelle version. Elle s'est updatée, il y a plein de nouveautés, et je l'ai pas lancée. J'ai pas été voir. J'ai fait genre non, je veux pas savoir en fait.
Allez, on va passer à la dernière news de cet épisode de Torréfaction, avec une news tech et un nouveau Wi-Fi. Ouais.
Ouais. Alors c'est un nouveau Wi-Fi qui est pas un nouveau Wi-Fi. Tout va bien. On le connaît pas vraiment, mais presque. On a déjà expliqué que le Wi-Fi 6 venait d'être validé et arrivait bientôt dans les nouveaux matériels qui maintenant que ça a été validé par les institutions qui s'occupent de ce genre de trucs. Évidemment, maintenant que tout est prêt et qu'on n'attend plus que tout ce qui va avec, et les mecs nous ont fait le Wi-Fi 6E. Et ouais.
C'est quoi donc?
Et j'adore, parce que tu vois, c'est le truc, il était terminé. Tu te dis, ah, on va enfin pouvoir avoir le nouveau matos. Non! On va rajouter quelque chose. Parce qu'en informatique, c'est toujours comme ça. Hein, y a toujours un nouveau truc mieux qui va arriver. Donc, la différence, c'est que cette fois, ça va gérer le 6 GHz en plus. Ça rajoute des canaux pour qu'en fait, les devices qui se connectent en Wi-Fi ne se marchent pas dessus. C'était déjà le but, en fait, du Wi-Fi 6. Mais là, ils se sont dit, en fait.
On va en mettre plus.
Ouais, on va encore manquer de place. Donc, on va encore en rajouter. Alors la blague, c'est que ce truc-là est annoncé un petit peu partout parce que il y a des gens comme Qualcomm qui sont déjà en train de bosser sur les puces qui vont gérer ça. Sauf que techniquement, c'est pas très compliqué de rajouter ces trucs-là. Sauf que le 6 GHz, il était utilisé pour autre chose. Donc faut que la FCC valide ça, dise oui à tout le monde. Ensuite, faut que le matos sorte. Bref, c'est annoncé, mais bah vous n'attendez pas le matos compatible hein, parce que ça va mettre un moment à arriver. Mmh. Il faut savoir qu'il y a déjà des produits qui sont compatibles Wi-Fi 6. Les derniers Samsung S10 par exemple l'ont déjà, mais bah votre routeur ou votre box ne l'est certainement pas. Et puis ça va mettre un moment avant d'être le cas. Donc voilà, à chaque fois il faut que tous les éléments de la chaîne soient compatibles avec la dernière norme. Donc dans le cas du 6E, ça sera exactement la même chose. Ne vous prenez pas la tête en vous disant ah je vais changer mon matos, mais je vais attendre que ça sorte, parce que pour l'instant on n'a aucune date. On sait juste que ça y est, le premier draft est validé, on sait à quoi ça va servir, comment ça va marcher, mais pour le moment bah, on ne sait encore pas du tout quand est-ce que ça sera disponible et encore moins chez qui. Mais voilà, maintenant vous savez que ça existe, vous pourrez briller en société grâce à Torréfaction, de rien, donnez sur le Patreon, merci.
Et on ligne un papier d'ailleurs qui explique tout ça, un papier de nos amis de O2Geek, si vous voulez creuser un peu le sujet donc du Wi-Fi 6E. Et c'est la fin de ce 117e épisode de Torréfaction. On se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine, vendredi 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. D'ici là, on va aller vider notre backlog série télé. Hein.
Non, moi j'ai acheté des jeux vidéo parce que j'ai pas de backlog de jeux vidéo. Non, je suis un imbécile. J'apprends pas. Tu vois, je vous dis, n'achetez pas de jeux et je prends des trucs multi où il faut 150 heures pour commencer à prendre le jeu. Voilà. Et de toute façon, j'ai plein de boulot et je ne comprends pas. C'est 2020, quoi, les gars. Bon, voilà, on est occupés. Mais ouais, le backlog série télé, ça serait pas mal, surtout que t'arrêtes pas de me parler de trucs et après je les rajoute et attention, tiens, on finit sur un petit sondage vite fait sur le forum, dites-nous hein, si vous voulez qu'on vous parle de trucs qui intéresseront pas du tout Fasque, genre les dessins animés japonais, parce qu'on parle de backlog, mais là je vous ai épargné mon backlog de Deajap, il est débile, et cette année il y a des trucs super qu'on attendait pas du tout, donc on en parle sur le forum de Geekzone et on s'échange les bons plans, mais c'est pareil hein, les journées font toujours 24 heures, donc on s'en sort pas les gars, on s'en sort pas.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez un bon week-end et une bonne semaine. Ciao!
Ciao, ciao!
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Les clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie-crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr. On vous y attend, amis True Believers.
You're gonna break your old man's heart.
If I have to.
Nobody has to break anything.
Clearly, you've never made an omelet.
You beat me by 1 second.